Oui, réellement, nous saluons encore une fois tous de tout notre cœur dans le monde entier, du lever du soleil jusqu'à son coucher, de l'est à l'ouest, du sud au nord, dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous avons aujourd'hui des requêtes particulières que nous allons tout à l'heure apporter au Seigneur. Ensuite, nous avons des salutations particulières, très particulières, de la Russie, de l'Oural, de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Russie blanche, dit le frère Schmitt, ensuite du Ouzbékistan. C'est bien simplement de ce que Dieu a son peuple partout. Ensuite, nous avons des salutations de l'Amérique du Sud, des frères et sœurs du Brésil jusqu'à l'Amazonas, de Recife et à São Paulo, Brésil et dans d'autres villes. Ensuite, des salutations de l'Angola, de Luanda, de Cabinda. Oui, tous partout remettent leurs salutations aussi de la Mozambique, du Mozambique. Tous eux saluent fraternellement. Ensuite, nous avons des salutations de l'Amérique du Sud. Cette fois-ci, c'est le frère Graf qui nous salue avec tous nos frères et sœurs du Chili. Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse bénir tous nos frères et sœurs là-bas. Ensuite, le frère Jürgen salue, le frère Wallström salue du Danemark, particulièrement le frère John de Bucarest salue particulièrement, le docteur Mbie de la République du Congo salue cordialement. Ensuite, nous avons des salutations de Madagascar, des salutations d'Orléans, des salutations du Cameroun. Des salutations de l'Inde, un moment, il y a une feuille double ici, parfois les gens m'en veulent quand je ne remets pas leurs salutations. Alors, ensuite, salutations de l'Italie, un frère remet des salutations, salutations d'Atlanta, Georgie, USA. Ensuite, nous avons des salutations de Burma, des salutations de Thaïlande, de Denver, États-Unis, des salutations encore de la Roumanie. Et ensuite, nous avons des salutations du Rwanda, des salutations du Kenya. Il y a sûrement encore une feuille collée. Des salutations de la Finlande. Nous connaissons nos frères et sœurs Obvilti et tous ceux qui sont là-bas avec eux, écoutent ensemble en ligne directe. Ensuite, des salutations particulières du frère Etienne Genton. Oui, des salutations et encore une fois des salutations de tous nos frères, particulièrement de tous ceux qui servent le Seigneur dans la prédication. Des salutations aussi de l'Afrique du Sud, de Kapstadt, de Johannesburg, de partout. Et notre frère Mbie, le papa de Jean-Claude, disait, frère Franck, nous sommes à peu près 2000 personnes rassemblées et nous sommes sur nos genoux devant la face de Dieu et demandons au Seigneur qu'il puisse, dans ce week-end, de manière particulière, bénir. Et nous attendons, il a dit donc, nous vous attendons donc dans les prochains jours. Ensuite, nous avons un exposé puissant de 4 pays de l'Afrique. Nous avons rapidement mis cela en écrit, en allemand, et en français et en anglais, avec quelques photos. J'étais avec le frère Tati. Où est le frère Tati? Tati, lève-toi s'il te plaît. Frère Tati, lève-toi s'il te plaît. Oui, oui. Que tous puissent le voir, frère Tati, c'est le meilleur traducteur de l'anglais en français. Le meilleur traducteur. Que Dieu te bénisse richement. Nous étions au Togo ensemble. Nous étions au Tchad. Nous étions au Burkina Faso ensemble. Nous étions au Niger. Et nous avons décollé et atterri, oui, avec l'avion, de ville en ville, de pays en pays. Et ensuite, nous avons eu même pu louer un avion privé avec 12 sièges. Et nous avons entrepris 600 kilomètres à l'intérieur du pays. Ensuite, encore entrepris 2 heures en voiture pour visiter ceux, donc apporter la parole à ceux qui aiment écouter la parole de Dieu, leur donner la possibilité aussi de l'écouter. Nous avons saisi chaque occasion que le Seigneur nous a accordée. Parfois, nous restions parfois au milieu de la nuit, donc très tard, jusqu'à nous sommes levés très tôt, parfois même à 3h15 du matin, pour déjà commencer la journée, et c'était puissant. Notre frère pourra particulièrement donner le meilleur témoignage. 8 prédicateurs de différentes dénominations ont pris leur décision de se laisser baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi accepter et croire le message divin. Et dans la dernière réunion, il y a un prédicateur baptiste. Qu'est-ce qu'il était? Il était le président donc, de toute l'Union baptiste. Il était assis au premier rang. Ici, vous pouvez même le voir, habillé en blanc, et il s'est levé et il disait ce que nous avons entendu ici dans les 2 prédications n'était rien d'autre que la pure parole de Dieu. C'était simplement merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur a conduit et a rassemblé son peuple pour écouter ses paroles, les paroles de la vie éternelle. Je crois que le frère Tati va sûrement se réjouir si j'expose rapidement ce voyage. Nous étions ensemble à Lomé, à l'aéroport, et nous voulions donc aller au Burkina Faso, et pendant que nous étions à l'aéroport, le vol est annulé et il est annoncé qu'il n'aura plus lieu. Nous devons donc changer la réservation et tout de suite donc aller au Niger, alors que nous avions l'intention d'aller au Niger après le Burkina, et nous ne pouvions donc plus aller au Burkina et devions donc directement aller au Niger. Et nous fûmes saisis de tristesse. Le frère Tati a appelé donc les frères au Burkina Faso et a dit: vraiment, nous sommes désolés, le vol a été annulé, nous ne pouvons pas venir. Et ça, c'est ici la plus grande réunion de tous, de toutes les réunions que nous avons eues, la plus grande réunion de tous. Des 4 réunions que nous avons eues. Et alors que nous étions en vol en direction du Niger, à peu près 45 minutes en direction du Niger, c'était donc la dernière station du voyage. Il y a eu une annonce dans le vol qui a été dans l'avion: nous devons faire un escale au Burkina Faso. C'était pas prévu. Nous devons faire une escale. Il y a eu une tempête qui a eu lieu. Il y a eu une pluie de manière que la machine ne pouvait pas atterrir au Niger. Elle devait faire une escale au Burkina Faso. La tempête était trop forte. Hein? Tati, n'est-ce pas? Frère Tati, n'est-ce pas? Oui. Et Et alors que nous avons entendu cette annonce que nous devons faire une escale au Burkina et que l'avion va atterrir au Burkina, nous avons eu une grande joie, nous. Nous avons ensuite, et ça je dois aussi reconnaissant, n'est-ce pas, notre frère, nos frères et ensuite aussi le frère Tati, eux ont utilisé, ont tout fait pour que, on ne peut pas si rapidement regarder comment est-ce que les frères utilisent et fonctionnent et les téléphones et ont tout fait. Et les frères qui étaient déçus et qui étaient en train d'aller nous chercher au Burkina, à l'aéroport, il fallait que les frères donc leur disent que les réunions sont annulées et ils étaient en train de partir et d'annoncer à tout le monde que les réunions n'auront pas lieu. Et quand ils ont appris que nous venons, vous pouvez vous imaginer quelle joie ça a été. Et aussi la joie de voir que beaucoup furent rassemblés au Burkina Faso. Il y avait la télévision qui était présente, la radio était présente, des journalistes étaient présents. Et toute la ville et tout le pays a appris ce que Dieu dans ce temps fait. C'est merveilleux comment est-ce que le Seigneur conduit toutes choses et dirige toutes choses. À lui soit l'honneur et la reconnaissance pour cela. De ce que Dieu, dans ce temps, nous a privilégiés de porter son message dans le monde entier. Cela n'est pas nos mérites, mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que tous, donc dans le monde entier, soient bénis. Le troisième week-end, ensuite, nous l'avons passé ensemble à Paris. Frère Didier, lève-toi s'il te plaît. Ça, c'est notre frère Didier de Paris. Et le frère Kupfer, lève-toi s'il te plaît, pour que tous puissent aussi te voir. Frère Didier a donc préparé les réunions et j'estime à peu près qu'il y avait au moins 1800 personnes présentes à Paris, rassemblées dans l'une des plus grandes salles, donc réunions que nous avons eues à Paris. Le frère Kupfer peut le confirmer. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur accorde toujours encore sa grâce et que nous pouvons encore voyager de ville en ville et de pays en pays pour porter la parole du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui de la visite, je vois notre frère de Guénaud, notre frère Guénobel, ici, originaire du Pakistan. Ce sont les premiers contacts en 1962 au Pakistan, dans un pays islamique, une république islamique, le Pakistan. Il était déjà, en 62, professeur dans une école biblique. Hein, et il a ouvert sa porte et l'école biblique a aussi ouvert leur cœur. Et aujourd'hui, nous avons plus de milliers de personnes dans le pays qui croient le message et qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse parmi nous. Que Dieu te bénisse. Oui, oui, que Dieu te bénisse. Ensuite, nous avons notre frère Daniel de la Roumanie ici et nous allons lui demander de prier avec nous, encore une fois, de prier avec nous. Je voudrais demander qui serait là ici pour la première fois et lever les mains rapidement. Avons-nous des amis? Avons-nous quelqu'un qui serait ici pour la première fois aujourd'hui? Oui, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît. Qui serait là pour la première fois? Levez-vous. Oui, oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse simplement, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi de vieux amis de Kifon, que nous avons salué tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous de la plénitude de sa grâce, qu'il bénisse tous et qu'il soit avec nous. Maintenant, avant que nous appelions le frère Didier pour la prière, je voudrais dire la chose suivante, qu'au commencement de cette réunion, de ce culte, nous puissions dire au Seigneur ce qui nous touche, ce que nous avons dans le cœur, nos requêtes, ce qui nous préoccupe, ce que nous avons dans le cœur. Nous voulons lui remettre tout dans la prière pour pouvoir être déchargé et pouvoir écouter la parole de Dieu pour qu'elle puisse produire l'effet pour lequel elle est envoyée par Dieu. Nous sommes tous encore des hommes, encore de la visite de Chili. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse simplement tous de loin et de près. Et que Dieu bénisse tous dans le monde entier qui maintenant sont en liaison, sont en ligne directe. S'il vous plaît, nous voulons dans la foi apporter au Seigneur nos propres difficultés et aussi nos requêtes. Apporter tout au Seigneur dans la prière. Il dit encore aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il est encore aujourd'hui présent parmi son peuple pour guérir, pour délivrer, pour bénir. Et nous allons ensemble lui demander qu'il puisse aujourd'hui recevoir tout ce qui lui revient de plein droit et que nous puissions aussi de lui recevoir tout ce qui nous revient de plein droit dans nos droits divins. Nous demandons au frère Daniel de venir et au frère Thomas qu'il puisse traduire. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et qu'il soit avec nous tous. S'il vous plaît, venez. Qu'il ait vraiment son chemin avec nous et que sa volonté soit faite. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous te remercions pour ce jour que tu as fait pour nous et pour ton peuple. Quand nous sommes ici rassemblés pour écouter ta parole et pour aussi écouter tes promesses que tu nous adresses, que nous puissions aujourd'hui expérimenter des choses merveilleuses dans ta présence. Fais de grandes choses dans nos cœurs par ta présence ce soir et révèle-nous ta parole ce soir. Guéris, délivre, pardonne-nous et confirme ta parole en tant que vrai parmi nous. Nous sommes ici parce que nous savons que tu es présent parmi ton peuple, tel que tu viens à Abraham, tu l'as visité pour lui donner la promesse, et ainsi que tu es celui qui, dans son époque, a accompli ses promesses. Aujourd'hui, les promesses des Écritures s'accomplissent aussi, car le peuple de cette heure te fait confiance. Manifeste-nous ta fidélité, montre-nous ta grâce. Fais en sorte que nous puissions repartir de cet endroit et que nous puissions en pouvant dire que tu nous as parlé à notre cœur. Aujourd'hui encore, le ciel est ouvert pour nous. C'est pour cette raison que nous te demandons que tu puisses déverser ton Saint-Esprit et que tu puisses accomplir ce que tu as dit par la bouche de ton prophète dans ce temps. Que ce message ramènera le cœur des enfants à celui des pères. Manifeste-toi parmi nous, tel que tu l'as promis dans Actes des Apôtres, chapitre 3, Et dans Matthieu 17, verset 11, tu as donné cette promesse. Et nous sommes ici rassemblés dans cet endroit pour que nous puissions expérimenter l'accomplissement des promesses de ta parole. Que ta parole encore aujourd'hui est vivante parmi nous et agit en chacun de nous qui croyons. Conduis ton peuple pour que dans l'obéissance et dans l'humilité, nous puissions marcher devant toi. Louer et exalter et remercier soit ton saint nom, Père Céleste, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons tout de suite, ceci est le jour, ceci est le jour.
Amen.
Amen.
Ihr mögt euch setzen.
Vous pouvez vous asseoir.
Heute,
aujourd'hui,
habe ich eine sehr schwere Aufgabe.
J'ai un devoir très difficile.
Ich habe im letzten Siegel gelesen.
J'ai lu dans les sept sceaux
das, was Bruder Brenham,
ce que frère Branham
im Abschluss, im März,
le, en mars 1963 dans le septième saut, dans le dernier saut, avait à dire, et simplement cela a inondé mon cœur, que nous acceptons comme ça rien, comme allant de soi, mais notre appel et élection, par la grâce de Dieu, nous pouvons l'affermir. Et ici, il a tiré une comparaison qui est unique dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que deux tribus du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament furent bénies dans Apocalypse 7 ne sont plus trouvées, mais que les deux fils de Joseph ont été établis à leur place parce que ces deux tribus-là se sont détachées et ne voulaient plus aller à Jérusalem, mais restèrent dans les montagnes d'Éphraïm et ont établi leur propre lieu de sacrifice et de culte et n'allaient plus à Jérusalem. Et ce n'était plus des cultes rendus à Dieu, mais c'était de l'idolâtrie qu'ils faisaient. Et en fait, Dieu donc a dû effacer ces deux tribus. Ils ne sont plus trouvés dans Apocalypse chapitre 7 parce qu'ils ont méprisé leur détermination et leur appel. Et je voudrais, pour cela, lire quelques passages du dernier sceau. Ici, frère Branham dit la chose suivante, citation, « Ce n'est pas de chaque juif qui est juif, ce n'est pas chaque juif, mais seulement les 144 000 d'abord appartiennent aux élus. » Les 144 000. Je voudrais vous montrer que l'épouse aussi doit être dans l'ordre voulu de Dieu. Elle aussi, l'épouse. Ensuite, citation. Lisez Apocalypse 7 avec moi et soyez attentifs dans Apocalypse chapitre 7. ces deux tribus-là manquent. Dan et Ephraïm manquent, ne sont plus ici parmi les tribus. Avez-vous remarqué cela? Ici, Frère Branham pose la question. Chapitre 7 d'Apocalypse. Dan et Ephraïm n'existent plus ici dans Apocalypse 7. À leur place, Joseph et Lévi ont été établis. Dernier paragraphe, il a donné à Moïse les promesses qu'il avait données déjà à Abraham. Moïse les a expérimentées. Les promesses données à Abraham ont été expérimentées par Moïse. Ensuite, citation, Dieu a dit, ce que j'ai promis, je l'accomplis. Dieu n'oublie rien. Il n'oublie ni ses malédictions prononcées, ni ses bénédictions prononcées. Ensuite, Frère Branham dit les choses suivantes. Dans Deutéronome, au chapitre 29, à partir du verset 16, nous lisons. Je vais maintenant seulement un peu lire et ensuite je vais ouvrir la Bible. Je lis ici du livre parce que le texte de Deutéronome 29 au verset 16 est écrit ici aussi. Deutéronome 29, verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Ensuite, il continue avec le même texte de Deutéronome. Je voudrais encore lire ce passage. Il s'estime heureux. Donc, il parle de ceux qui ont sacrifié. Vous savez, ils font une croix comme on le fait aujourd'hui, la même chose. C'est une tradition païenne. Ils se pensent heureux dans leur cœur, d'après leur propre imagination. Vous savez tous, nous ne portons aucun jugement, mais même quand des gens portent une croix ou bien se font le signe de croix, ils sont sincères, ils pensent que c'est correct devant Dieu, même de toucher les trois points au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils le pensent sincèrement de tout leur cœur et malgré tout, toute l'humanité est égaré dans ces choses, par ces choses. Ensuite, ici, le frère Branham dit, c'est pour cette raison que si un homme sert une idole ou alors porte avec lui une idole et se bénit dans ses pensées par cette idole et se pense heureux à cause de cette idole, homme ou femme, famille ou tribu, son nom, le nom de ces personnes-là seront effacés dessous le ciel. Oui, est-ce que c'est vrai? À tel point c'est vrai, oui. L'idolâtrie dans l'Église d'aujourd'hui, depuis des années, a produit la même chose et il continue encore à le faire. Je pourrais continuer avec de lire donc ces différentes citations de ce que frère Branham ici, dans le dernier saut, avec tout le sérieux a dit que vraiment il s'agit maintenant de ne pas dans son cœur se penser béni dans ses propres imaginations et de se penser protégé par ces choses, mais d'avoir plutôt la certitude et que nous sommes en accord avec Dieu, la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Ensuite, le frère Branham vient et suit cette pensée et dit, citation, regardez, ils se font des idoles, des images taillées, des statues, et ils vont se prosterner devant ces choses. Ils se sont détachés de Jérusalem à l'époque, ces deux tribus, Dan et Ephraïm, et avec esprit, ils sont allés établir un culte parallèle dans les vallées d'Ephraïm. Nous allons encore revenir à cela. Ici, le frère Branham fait une remarque et dit la chose suivante. Les noms des 12 tribus ont été de ces deux tribus ont été détruits parce qu'ils ont commis l'idolâtrie. Dieu les a maudits, les deux tribus. Est-ce qu'il ne dit pas qu'il haït les Nicolaïtes et Jézabel et ce qu'ils font? Ici, frère Branham fait une comparaison avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec ces deux tribus-là, Dan et Ephraïm. Il tire une comparaison avec ce qui est écrit dans Apocalypse, le chapitre 2. Ici, ça devrait être le verset 3 et 4, Apocalypse, chapitre 2, verset 14, Apocalypse, chapitre 2, verset 20, où il est encore parlé ici de Bileam en comparaison avec Balaam qui a fait tomber le peuple de Dieu, ensuite de Jézabel qui aussi a séduit et égaré le peuple de Dieu et aussi les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous devons le lire pour que nous puissions voir la comparaison et le parallèle que frère Branham tire pour reconnaître par cela ce que l'Esprit de Dieu voulait vraiment dire et a aussi dit pour nous montrer le sérieux de ces choses, que personne puisse vivre dans la prétention qu'avec moi tout est en ordre, sans considérer ce que je fais et ce que je crois. Ici, dans Apocalypse, chapitre 2, au verset 14, Apocalypse, chapitre 2, verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. C'était de telles personnes qui étaient dans l'Église, ici, dans l'Église primitive, après que Dieu, par le déversement puissant du Saint-Esprit, avait fondé l'Église, l'avait appelée à l'existence et l'avait déterminée à être son corps et à continuer son ministère, car l'Église est, n'est-ce pas, selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15, le pilier et l'appui ferme de la vérité. Dans l'Église, aucun enseignement étranger n'a le droit d'exister qui n'a pas existé dans l'Église primitive enseignée par les apôtres, mandatés par Dieu, les enseignements qu'ils ont écrits et qu'ils ont prêchés. D'autres enseignements en dehors de ça n'ont pas le droit d'exister dans l'Église. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, tout doit être ordonné bibliquement. Et à cela, justement, Dieu nous appelle toujours de nouveau à nous rassembler pour que nous puissions nous orienter et que nous puissions pour qu'on puisse nous montrer la direction à prendre. Et ici, au verset 20 d'Apocalypse 2, il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il est écrit ici, mes serviteurs, pour qu'ils pour enseigner et séduire mes serviteurs. Si c'était seulement une sœur, comme ça, simple, personne aurait été séduit. Mais parce qu'elle était une prophétesse, parce qu'elle disait, n'est-ce pas, elle pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. Alors, tous ont prêté l'oreille parce qu'elle disait, ainsi dit le Seigneur. Donc, ils n'ont pas seulement prêté l'oreille, mais ils ont aussi obéi. Mais je voudrais ici prononcer cet avertissement et réellement le transmettre venant de tout mon cœur. Si Dieu, dans le dernier saut, dans les dernières minutes, le 24 mars 1963, et tous nous savons ce qui s'est passé là, c'était sous un ordre spécial du Seigneur que frère Branham a encore parlé des sept sceaux, et ensuite, comme je viens de le dire, dans le septième sceau, dans les dernières minutes des sceaux, il est venu à parler de ce sujet que les deux tribus, ces deux tribus-là, ne sont plus trouvées dans Apocalypse du chapitre 7, parce que justement, elles ont commis de l'idolâtrie. Je voudrais pour cela aller dans Genèse et lire quelques versets bibliques. Dans Genèse, pour que vous puissiez voir que les plus grandes bénédictions que nous pourrions avoir ne nous servent à rien si nous tombons dans l'apostasie et nous devenons désobéissants et ne sommes pas trouvés dans la volonté de Dieu. Alors aussi, les puissantes bénédictions, expressions de bénédiction ne servent à rien. Ici, dans Genèse, je lis quelques versets. Dans Genèse 48, la dernière partie du verset 5. Ephraim et Manassé, oui, Genèse chapitre 48, verset 5. Genèse chapitre 48, verset 5. Genèse chapitre 48, verset 5. Ici, des promesses ont été faites à cette tribu. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ensuite, verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-là? Ensuite, verset 13, nous lisons. Vous voyez donc, malgré les prononciations de bénédiction, ici, puis Joseph les prit de tous deux, Ephraim de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Verset 13, il a lu le verset 5, verset 8, et maintenant le verset 13. Nous savons alors ce qui s'est passé ici. L'homme de Dieu a même imposé ses mains sur eux en croisant ses bras. La première fois où dans l'Ancien Testament, il est ici montré par quoi est-ce que la bénédiction viendrait. Il a fait le signe de croix. Mais s'il vous plaît, la bénédiction, il a croisé ses bras en les bénissant. Et nous avons lu dans la première introduction, en relation avec la bénédiction, il s'est dépouillé lui-même, il s'est rendu obéissant, oui, obéissant jusqu'à la mort de la croix. La désobéissance est une malédiction, et frère Branham l'a souvent dit, le péché original, c'est l'incrédulité liée avec la désobéissance. Maintenant, écoutez bien ici ce que cet homme de Dieu a exprimé et pensé, s'il vous plaît. Malgré tout cela, ça n'a servi à rien parce que cette tribu s'est aussi détachée et est allée dans ses propres chemins. Et ces gens-là, Jéroboam n'a pas aussi à son époque permis que son peuple aille à Jérusalem. On va lire ça dans Dans Genèse chapitre 48, versets 15 et 16,
dann segnete er Josef.
Il bénit Joseph et dit que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Oui. Ensuite, au prochain verset, il impose, mais alors qu'il voyait, il vit Joseph. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Il ne voulait pas. Il a dit non, pas ainsi. Nous lisons, nous continuons à lire. Nous pourrions en faire lire ici chaque verset. Je lis la dernière partie du verset 20.
Gott mache dich gleich Éphraïm und Manassé.
Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Et ensuite, celui qui a été placé en première place, dans son nom et dans sa tribu, n'est plus donc trouvé. Pourquoi il est sorti de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, marché dans ses propres chemins, commis idolâtrie, malgré les promesses de bénédiction. Nous allons d'abord dans Genèse, dans 1 Roi, chapitre 12, pour faire le pont à ce que frère Branham aussi a mentionné en relation avec Apocalypse 2, 14 plus 20, concernant Balaam et aussi Jézabel, cette prophétesse, qui concerne donc ces deux personnages. Ici, dans Genèse, le chapitre 12, on doit lire tout le chapitre pour avoir tout le contexte. Mais je voudrais ici lire quelques paroles. Verset 28, on devrait en fait lire verset 25 déjà. Verset 25, il lit à partir du verset 25. 1 Roi, chapitre 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Ensuite, cela continue. Et cela continue. Ensuite, au verset 28. Après avoir demandé conseil. Après s'être demandé conseil, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Oui, hein? Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exactement ce qui s'est passé avec Aaron. Alors que Moïse était resté 40 jours sur la montagne, et tout de suite après que Moïse était en haut, ils ont fait un bélier d'or et ils ont dansé autour du bélier. Et ici, nous lisons aussi deux veaux d'or, la même chose. Ce qui s'est passé d'Aaron, ils ont dit aussi à l'époque, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La même phrase du temps d'Aaron, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Cela est incompréhensible. Ils ont complètement perdu la pensée normale et l'orientation à prendre. Pourquoi ? Et pourquoi ainsi nous l'avons lu ? Pourquoi ? Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Quel est le message de l'heure? Nous devons revenir à la parole de Dieu qui est sortie, des apôtres qui est sortie de Jérusalem, pas aller en Samarie ou bien quelque part d'autre, où quelqu'un établit sa demeure et son culte et se bâtit un péniel, mais de revenir à Jérusalem. C'est là-bas que l'Église fut fondée. C'est là-bas que fut l'effusion de cet esprit. C'est là-bas que les premiers enseignements ont été enseignés, que la première prédication a été tenue. Et c'est là-bas que nous devons revenir spirituellement. Ensuite, au verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Hein, ici, Bethel, pour la première fois, est mentionné dans Genèse 12, en relation avec Abraham, n'est-ce pas? Et ici, Bethel, encore une fois, ça veut dire maison de Dieu, n'est-ce pas? De la maison de Dieu, regarde ce qu'ils en ont fait. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Hein? Ça sert à quelque chose, bien mes frères et sœurs, de lire tout le contexte pour montrer quel effet cela a produit de s'être séparé de Jérusalem. Exactement la même chose. Et exactement la même chose s'est passée pour tous ceux qui se séparent de l'enseignement qui est sorti de la montagne de Sion, qui est sorti de la montagne de Jérusalem. La même chose, le même résultat se passera avec tous ceux qui se séparent de l'enseignement qui est sorti de Jérusalem. Lisons encore le verset 33 dans Genèse, dans un roi, chapitre 12, toujours un roi, chapitre 12, peut-être le verset 33. Verset 33. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. Moi qu'il avait choisi, maintenant arrive, de son gré, il fit une fête pour les enfants d'Israël. Ce n'était plus ce que Dieu décidait à Jérusalem, ce que Dieu avait promis à son peuple originellement. Il ne s'occupait plus de ce que Dieu avait dit ici, il a dit, moi qu'il avait choisi de son gré. Il avait choisi un jour de son gré, alors que Dieu avait choisi le 14e jour pour fêter la Pâque. Lui, il choisit le 15e jour du 8e mois, hein, pour faire la fête. Et donc, il dit que son peuple doit rester là, ne pas aller à Jérusalem. Il choisit de son propre gré un jour. Et ils n'ont pas besoin d'aller à Jérusalem. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et il a dit que attendez là la promesse du Père. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Pas ici et là. Mais malgré tout, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Mais arrive, gloire à Dieu, l'une des histoires les plus tristes de toute la Bible suit au chapitre 13. Dans 1 Roi, chapitre 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. En allemand, à l'ordre de l'Éternel. C'était à la parole de l'Éternel qu'il vint en cet endroit, et c'est à la parole de l'Éternel qu'il a dit ce qui allait arriver avec l'autel, à la parole de l'Éternel. Et ce qu'il a prononcé, s'est exprimé, s'est accompli à l'instant même. La dernière partie du verset 2, du verset 3, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Vous pouvez continuer à lire. Cela a eu lieu tel que cela a été prononcé par cet homme de Dieu. Et ici, au verset 5, l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue. Selon le signe qu'avait donné l'ordre de Dieu par la parole de l'Éternel. Oui. Jusqu'ici. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu le Seigneur avait dit à cet homme de Dieu de Jérusalem, il lui avait donné, il lui avait ordonné à cet endroit où la condamnation est prononcée, il lui avait donné l'ordre de ne pas manger à cet endroit et de ne pas boire à cet endroit. Et ça, il a dit aussi au roi qu'il avait invité de venir, ici au verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. La réponse de l'homme de Dieu est écrite au verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Oui. Et ensuite, là, quelque chose qui s'est passé. Il s'est pas attendu à ça, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé et il s'est pas attendu à ça. Je vous dis, ça, c'est une leçon pour moi, une leçon pour tous les prédicateurs de la parole de Dieu. Si un ordre vous est adressé de la part du Seigneur, vous devez conserver cet ordre-là et l'exécuter dans sa forme originale. Et vous ne devez plus prêter l'oreille à un institut du Seigneur qui est en contradiction avec ce que Dieu vous a déjà dit. Continuons à lire ici. Ici, il est dit, à partir du verset 16, 17, mais il répondit, oui, là, maintenant, un prophète vint. Oui. Verset 11, déjà, on devrait d'abord lire le verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Tous vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il avait préparé son âne. Il a préparé son âne donc, et il a poursuivi, donc il a suivi. Il est allé l'homme de Dieu et il a trouvé assis sous un térubin. Il lui dit alors, donc, il scellait l'âme, il le monta dessus, il alla après l'homme de Dieu. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, suit l'histoire triste, très triste. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi. En ce lieu-ci. Car, verset 17, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, il m'a été ordonné, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Quel ordre clair lui a été adressé de la part du Seigneur et il a transmis de manière fidèle, hein, tel qu'il avait reçu du Seigneur. Et maintenant suit le désastre, le malheur. Et ce qui est écrit ici me rappelle à Galates chapitre 1. Mais je voudrais Lire ce verset avec une tristesse profonde et étant saisi de tout mon cœur aussi concernant ce qui pourrait arriver à tous les hommes de Dieu. Ils ne doivent pas prêter l'oreille à qui que ce soit qui se réfère à des expériences surnaturelles qu'il a reçues. Si ces expériences-là sont adressées contre l'ordre divin, imaginez-vous ce vieux prophète, comme il est écrit ici, qui demeurait à Bethel. Ça ne lui a pas suffi de faire cette proposition que l'homme de Dieu lui avait faite, n'est-ce pas? L'homme de Dieu a déjà refusé l'invitation. Et ça ne lui suffit pas. Ensuite, il arrive à une telle idée et il lui dit au verset 18, « Mais moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé, avez-vous entendu? Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Auparavant, hein, nous avons entendu trois fois, hein, à la parole concernant le vrai prophète. Il est dit qu'il a tout fait par la parole de l'Éternel, par la parole de l'Éternel, par la parole de l'Éternel, trois fois. Mais ici, j'aurais presque dit faux prophète. Ici, lui, il utilise la même formulation que l'homme de Dieu. Il dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. La même phrase, de la part de l'Éternel. Mais il ne mentionne pas la parole. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il mange. Ne juge pas rapidement, s'il vous plaît. Si quelqu'un a des expériences particulières, vient à vous avec des expériences surnaturelles, avec une vision, avec une apparition, avec des expériences surnaturelles, hein? N'est-ce pas? Ne jugez pas si rapidement. D'abord, hein, et on ne s'attend pas que quelqu'un pourrait mentir consciemment mentir. Mais ici, il est tombé dans le piège. Ici, il est dit à la fin du verset 18, il lui mentait. Imaginez-vous. Ici, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Imaginez-vous ce qui a dû se passer en lui. De dire au roi, je n'ai pas le droit de retourner. Je n'ai pas le droit de manger dans ce lieu, ni de pain, ni de boire de l'eau. Mais le faux prophète lui dit clairement, et il a dit aussi au faux prophète clairement, je n'ai pas le droit de le faire, d'entrer chez toi et de manger et de boire. L'Éternel, le Seigneur, m'a ordonné de ne pas le faire. Tu n'as pas le droit de manger en ce lieu et ni de boire en ce lieu. C'était un ordre. Et ici même aussi, en tant qu'homme, il avait parlé. Mais au moment où ensuite, comme pour dire, il fut conduit dans le ainsi de Seigneur, dans son ministère, même l'homme de Dieu a eu de la crainte. Et je vais vous dire aussi pourquoi. L'homme de Dieu ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un, qu'un prophète pourrait oser mentir comme ça. Il ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un pourrait raconter des choses, des expériences qu'il a eues avec Dieu sans les avoir eues avec Dieu. J'ai expérimenté ça ici en 79. Je ne pouvais pas imaginer dans ma vie que quelqu'un pourrait mentir consciemment, raconter des expériences qu'il a eues en mentant consciemment et que quelqu'un pourrait consciemment utiliser le ainsi du Seigneur et en étant utilisé par le diable. Je ne pouvais pas imaginer que cela serait possible. Et ici, voilà la punition que le Seigneur lui a donnée tout de suite et vous pouvez la lire tout de suite. Cet homme de Dieu sincère, rentre dans le piège de ce ainsi dit le Seigneur, de ce faux prophète que Dieu ne pouvait même plus utiliser, mais qui s'est tu. Il habitait à Bethel et il n'a rien dit contre l'idolâtrie. Il n'a pas parlé contre ses cultes et ses parfums qui étaient idoles. Il était là, soit disant prophète, dans ce lieu Bethel. Il demeurait là et il n'a rien dit contre cela. Il a fallu que Dieu envoie un homme de Judée là-bas, là où lui il habite. Lui, il était là, il ne disait rien de tout ce qui se passait. Et maintenant, il rencontre l'homme de Dieu et il... Vous vous rappelez? Est-ce que vous... Vous pensez ici, qu'est-ce que Paul a dû avoir devant les yeux quand il parlait dans Galates 1 et qu'il disait que même si un ange du ciel viendrait vous prêcher un autre évangile que ce que je vous ai prêché, moi Paul, maudissez-le. Écoutez pas, maudissez-le. Faites-le partir, chassez-le. Et vous remarquez que cet homme de Dieu a réellement, directement ressenti. Il laisse l'âne du faux prophète et il est sorti donc de la ville et voilà. Ici, c'est écrit au, verset, au chapitre 13, verset 23. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Hein? Mais regardez, il scella l'âne pour lui. Oui. Ensuite vint le lion. Par un lion, il fut donc tué en chemin. Et alors, il y en avait trois qui étaient là. Le lion, l'âne et le lion, l'âne et l'homme de Dieu. Et les gens sont passés, ont vu le cadavre et ils ont raconté au prophète ce qui s'est passé à l'homme de Dieu. Ils ont raconté au faux prophète donc ce qui est arrivé à l'homme de Dieu et imaginez-vous ce que cet homme donc ensuite a osé encore dire ici. J'aimerais être présent quand il recevra sa condamnation, même aussi dans le temps de la grâce. Bon, mais j'espère que les choses iront bien pour moi quand Dieu prononcera mon jugement. Ici, au verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Voilà ce que le prophète dit. Il dit, ça c'est l'homme de Dieu qui a été désobéissant, rebelle à l'ordre de l'Éternel. Qu'un homme puisse imaginer une telle chose. Ce faux prophète qui tend un piège à l'homme de Dieu, ensuite après vient et dit, mais voilà, ça c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Personne ne peut posséder une telle insolence en dehors d'un faux prophète. Ça ne peut être qu'un faux prophète qui peut être si insolent et audacieux. On peut continuer à lire. Alors que le frère Branham, ici, parlait de ça, sur les deux tribus, sur la chute de l'homme, pardon, sur l'apostasie, sur la chute, sur l'idolâtrie, et que ces deux tribus-là ne sont plus dans la liste des tribus parmi les 12 dans Apocalypse 7. Je pensais en moi-même, lis les chapitres, ce qui s'est passé réellement et quel effet, quelle signification cela peut avoir pour nous, en quoi est-ce que moi j'ai à être attentif, en quoi est-ce que tu as à être attentif, je peux le dire sincèrement, par cela j'ai reçu une grande leçon. Jamais plus prêter l'oreille à qui que ce soit qui puisse même descendre du ciel ou bien de la terre, ça m'est égal, mais seulement conserver dans sa forme originale l'ordre que j'ai reçu du Seigneur d'aller de ville en ville et prêcher la parole et apporter le dernier message et tous ceux qui sont déterminés à prendre part à l'enlèvement dans ce temps présent reviendront à ce qui est sorti de Jérusalem. Oh, Esaïe chapitre 2, Michée chapitre 4 demeure pour toujours vrai et est aussi confirmé dans les actes des apôtres. La parole du Seigneur sortira de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. Ici, nous avons compris, est-ce que nous avons compris cette leçon? Toutes les dénominations se sont détournées et ne permettent pas à leurs membres d'église de revenir à l'enseignement qui est sorti de la montagne de Sion, de Jérusalem. Ils veulent que leurs membres restent dans leur église, là où ils ont leur culte, faites leur culte. Et un culte rendu à Dieu est seulement là où il n'y a qu'un seul Dieu qui est adoré. Le premier ordre, la première loi, dans Exode 20, je suis ton, l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Tu ne te feras pas d'image taillée et de représentation des choses qui sont au ciel, ou bien sur la terre, ou bien sous, ou bien dans la mer. Seulement là où le seul vrai Dieu éternel, qui personnellement nous s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Seigneur, ici sur cette terre, là où ce vrai Dieu est adoré, et cela en esprit et dans la vérité, c'est seulement là que Dieu peut bénir. Tout le reste peut être garni de manière très pieuse. On peut en partie se référer aux Écritures et malgré tout égarer les autres. Je le répète encore une fois et en insistant. Si Paul, dans Galates, le premier chapitre, parle justement de cela, qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile en dehors de celui que Paul a prêché, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et même si un ange du ciel viendrait et vous apporterait un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, Paul a sûrement, en écrivant Galates 1, il a sûrement eu dans le cœur, devant les yeux, un roi, chapitre 13. Il a sûrement eu cette histoire dans cet testament devant les yeux. Et cela m'a touché le cœur, que nous qui, dans ce temps, avons reçu le message de Dieu, avons reçu la parole de la croix, notre souhait est que cette parole de la croix-là ne soit pas seulement un message, mais comme Paul l'écrit, que cette parole de la croix devient une puissance de Dieu et que nous puissions expérimenter l'effet de la parole. Que la rédemption, la délivrance et le pardon soient prêchés et expérimentés personnellement. Pour moi, c'est une grande leçon et on pourrait encore lire tous les versets bibliques où Dieu, par les prophètes, a fait des reproches à son peuple, que le peuple d'Israël a suivi et servi des dieux étrangers. Sincèrement, peut-être qu'en écoutant cela, nous demandons, mais nous ne nous sentons pas concernés, n'est-ce pas? Mais depuis le concile de Nicée et de Chalcédon, toutes les églises et les églises, soit des gens chrétiennes et communautés, ont établi leur credo, leur confession de foi. Et tous, sans exception, eux se réfèrent au concile, à la confession de foi de Nicée et de Chalcédone. Ils formulent tous la Trinité, donc dans toutes ses faces, ils la formulent, la Trinité. Tous se réfèrent à la Trinité, de laquelle pas une unique fois il est parlé dans la Bible. Ils pratiquent le baptême dans les trois titres, où une unique fois, jamais, un tel baptême, une telle pratique de baptême a eu lieu dans la Bible. Ils font des choses qu'ils ne retrouvent pas dans la Bible. Vous voyez, ils vont dans les montagnes d'Éphraïm, etc. Dans Éphraïm, tous ont leur propre culte, que ce soit des cultes ou pas. Et nous pensons réellement à la parole sérieuse de notre Seigneur. C'est en vain qu'ils m'honorent parce qu'ils ont annulé la parole de Dieu et ils ont établi alors à sa place des enseignements d'hommes, des commandements d'hommes. Là où il y a des commandements d'hommes et des enseignements d'hommes dans l'Église qui sont crus, là Dieu ne peut plus, dans l'esprit et dans la vérité, être adoré. C'est un mélange. Et le peuple de Dieu doit maintenant être appelé à sortir. J'étais touché alors que dans le dernier saut, j'entendais, j'avais lu cela. Comment est-ce que frère Branham, très brièvement, on pourrait le dire, mais a dit beaucoup de choses qui ont beaucoup de poids. Dans l'Ancien Testament, encore imposer les mains en croisant les bras, la main droite, n'est-ce pas, est imposée et encore même bénie cette tribu. Et malgré tout, la chute et la désobéissance et les propres chemins et d'établir tous ces cultes et ces idoles et ces endroits d'idolâtrie. Et de son propre gré, choisir le 15e jour, alors que où tous devraient se rassembler et personne n'avait le droit de repartir à Jérusalem. Je vous pose encore la question aujourd'hui. Vous pouvez aller dans les églises, vous regardez partout, personne dira quelque chose quand des méthodistes deviennent baptistes et quand des baptistes deviennent méthodistes, quand des pentecôtistes deviennent, ils peuvent tous, les uns parmi les autres, changer de place, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient baptistes, méthodistes, pentecôtistes, ça n'a pas d'importance partout où ils vont. Mais arrive le scandale au moment où ils apprennent qu'il y a des hommes sur terre qui croient que Dieu, dans notre époque, avait promis à un prophète et l'a envoyé, qui rétablira toutes choses dans l'état primitif, et que Dieu soit remercié, ce prophète a rétabli toutes choses. Si vous voulez vous prendre le temps, vous pourrez aller dans un roi et continuer à lire les chapitres. Et subitement, Jézabel apparaît. Ensuite, Akab apparaît. Subitement, Élie apparaît aussi. Hein? Et subitement, Élie est là. Et il sort de la montagne de Carmel. Et il rassemble le peuple de Dieu à se rassembler. Avons-nous combien de temps? 450 d'une sorte et 400 de l'autre sorte. Hein? Des uns sacrificateurs et des prêtres. Et l'homme de Dieu rassemble le peuple de Dieu. Et voilà, le Seigneur lui a fait la réponse. Dieu, dans ce temps, nous a donné une réponse claire à la parole de l'Éternel, à la parole de l'Éternel. Le message nous a été adressé de manière claire comme un cristal, tel que Dieu déjà l'avait ordonné aux apôtres et dans notre temps, ordonné à frère Branham et l'a envoyé. Ici, nous l'avons dans 1 Roi chapitre 18, verset 19. 1 Roi chapitre 18, verset 19.
Nun aber, sende hin und lass ganz Israel bei mir auf dem Berg.
Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Qui mange à la table de Jézabel. Ah. Oui, nous l'avons dit déjà. Jézabel, Apocalypse 2. Et Dieu nous a accordé la grâce. Frère Branham a tenu toute une prédication avec le titre « La religion de Jézabel ». Et il a montré toute l'apostasie actuelle. Et bien, mes frères et sœurs, c'est pour nous une sainte obligation, nous pourrions presque dire, dès que nous l'avons lu trois fois, à la parole de l'Éternel. À quelle parole, frère Branham? À la parole de qui est-ce que frère Branham a apporté le message? À la parole de qui est-ce qu'il a apparu dans notre temps? À la parole de qui? Il pouvait regarder en arrière, que ce soit à 3 ans déjà, alors qu'il avait reçu la première vision, que ce soit à 7 ans déjà, alors que pour la première fois, il avait entendu la voix du Seigneur. À 12 ans, il a eu une expérience particulière Depuis sa naissance, il avait été déterminé à être prophète de Dieu, consacré pour ce ministère, comme il avait été dit déjà au prophète Jérémie. Du ventre de ta mère déjà, tu es déterminé à être prophète, consacré à être prophète pour les peuples. Et tout ce que je t'ordonnerai de dire, tu dois l'apporter, le dire. Donc tu dois le dire. Nous lisons ensuite dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Un roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. » En allemand, attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ensuite, nous connaissons, n'est-ce pas, le déroulement de ce qui s'est passé sur la montagne de Carmel. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, je lis encore une parole du prophète Ézéchiel pour finir cette réunion qui, dans ces 2, 3, 4 jours, après que j'ai lu cela, m'avait touché beaucoup le cœur. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, ici, au chapitre 36, le retour d'Israël dans le pays de la promesse nous est décrit, et je voudrais ici dire la chose suivante. Nous pourrions ici tirer les parallèles pour nous, pour l'Église, à la fin du temps de la grâce. Ici, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Luc 21, verset 44, Luc 21, verset 24. Jérusalem sera entouré des nations, foulée par les nations, jusqu'à que le temps des nations soit passé. Ensuite arrive la chose suivante, au verset 24 de Ézéchiel 36, verset 24. Verset 25 maintenant. Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure. » À quoi pensez-vous maintenant? À Éphésiens 5, verset 26. « Lavez dans l'eau de la parole, Éphésiens 5, verset 26. « Purifiez une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous purifierai. Dieu n'a rien permis et il n'a rien non plus toléré. Ni les fausses doctrines sur la divinité et non plus les fausses doctrines sur le baptême et non plus toutes les autres enseignements qui ne sont pas bibliques. Dieu ne tolère rien. Il a de manière nouvelle rétabli toutes choses dans sa forme originale sur le chandelier. Et celui qui veut le voir, il peut le voir. Et celui qui a d'oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ensuite, au verset 26 d'Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau ensuite, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Aussi notre cœur de pierre doit être ôté de nous. Un cœur qui ressent, un cœur qui peut accepter, recevoir la parole. Ensuite, après cela, au verset 27, Je mettrai mon esprit en vous et ensuite il nous donne un cœur qui ressent un cœur qui accepte la parole. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, je ferai de vous des hommes qui suivent mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pratiquez mes lois. C'est moi, je ferai en sorte que vous le fassiez. Et cela a lieu quand c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de notre vie. Pensons ici à Romains 8, verset 11, verset 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Après qu'il fut dit au verset 11 que l'Esprit de Dieu doit habiter dans notre cœur. Ensuite, dans le verset ici 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. En amont, vous resterez dans le pays. Vous resterez. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous pensons ici aux trois derniers versets dans, je veux dire oui, dans 1 Corinthiens, oui, et aussi au dernier verset, dans le prochain verset, chapitre, dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous passons ici au dernier verset, aux trois derniers versets, au premier verset du chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 6. Ici, les choses suivantes sont écrites. Nous l'avons souvent lu et dit. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Et ensuite, le chapitre 7, verset 1. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit, ordonne le Seigneur en allemand, ordonne le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça, c'est aussi le résultat final des appelés à sortir, de l'Église appelée à sortir de Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat de l'Église, de son état. Tel que Dieu, dans le pays naturel, dans le pays naturel de la promesse, a ramené son peuple naturel. Et pendant des années, ce sont des années qui ont passé jusqu'à que chaque promesse s'accomplisse dans son contexte. C'est la même chose encore aujourd'hui. Le Seigneur appelle d'abord à sortir l'Église épouse. C'est un process, c'est une procédure qui dure des années jusqu'à que tous les peuples et les nations soient atteintes et que le dernier soit appelé à sortir. Ce n'est pas nous qui déterminons ces choses, c'est Dieu qui l'a déjà déterminé et ce ne sera pas trop tard. Tout aura lieu au temps convenable. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes ici rassemblés dans c'est un processus et vous bien mes frères et sœurs dans le monde entier, dans tous les continents, acceptez le message divin de tout votre cœur et que tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de l'évangile de Jésus-Christ puissent recevoir de tout leur cœur ce que nous avons lu aujourd'hui, ce soir, que personne, vraiment que personne, puisse nous sortir de ce chemin étroit, de cette direction, et que personne puisse nous dire quelque chose d'autre en dehors de l'ordre original que nous avons reçu, que nous avons à exécuter. Que Dieu puisse m'accorder la grâce, que Dieu puisse accorder à tous mes frères la grâce, tous ceux qui servent dans le ministère de la parole, de ne prêter l'oreille à personne, que ce soit qui se dit prophète, qui se dit apôtre, qui dit qu'un ange lui a apparu, il a vu des anges, etc. Nous savons ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Et ça, c'est l'ordre que nous avons reçu. Nous croyons en cet endroit par conviction que frère Branham avait reçu l'ordre, le mandat et l'envoi, et que il a été revêtu du message et envoyé avec le message. Et ce message-là, le même message-là, va dans le monde entier maintenant, avant le retour du Christ, comme précurseur de son retour. Demain, je viendrai, si je n'oublie pas, une ou deux citations de Frère Branham pour montrer comment est-ce que c'est important. Même chaque virgule et point n'a pas le droit d'être déplacé. Sinon, on change le sens de la phrase. Je me rappelle encore à plusieurs versets, n'est-ce pas, qui... dans la Bible des témoins, si je dois encore dire témoins de Jéhovah, je ne sais pas, mais je dis seulement témoins de Jéhovah, je ne veux même pas le dire, mais ils ont changé à cause de la virgule. Lisez ce qui est écrit dans Luc 23. Comment est-ce qu'ils ont changé et blasphème les et changer les sept écritures en changeant seulement le point et la virgule. Là, il n'est pas écrit dans la Bible. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui encore. Là-bas, dans la Bible, il est écrit. En vérité, je te dis aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, il dit, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis quand, on ne sait pas, mais dans la Bible, il dit, maintenant le Seigneur a dit, je te dis, virgule, aujourd'hui encore, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Eux, ils disent, je te dis aujourd'hui. Non. Pour moi, la parole de Dieu à la première place précieuse, pour moi, même la virgule, le point, tout à 100% dans le sens, dans sa signification, tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce soir aussi, pour les comparaisons, les parallèles. Je pense que tous, nous avons de manière nouvelle pris la décision. Et même si un professeur vient ou bien qui que ce soit vient, ça n'a pas d'importance, qui que ce soit, nous demeurons avec l'original, avec la parole originale. Et si quelqu'un nous dirait, « Oh, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem, vous n'avez pas besoin de repartir à ce qui a été prêché à Jérusalem, vous n'avez pas besoin de repartir à l'enseignement des apôtres, vous n'avez pas besoin de croire ce que les apôtres ont enseigné. » Non, nous ne pouvons seulement répondre à une telle personne avec Galates chapitre 1. Maudits soient tous ceux qui prêchent un autre évangile en dehors de celui que Paul, au commencement, et les apôtres ont prêché. Notre décision est ferme et est déjà prise une fois pour toutes, et nous croyons, comme l'a dit les Écritures, sans considérer ce que les autres porte comme jugement sur nous. Au Seigneur, notre Dieu, soit aussi toute la reconnaissance pour cette leçon sérieuse. Avons-nous compris cette leçon? Tous, avons-nous compris vraiment? Et même si un ange viendrait du ciel, se tiendrait devant toi et te dirait autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, par exemple que le Seigneur serait déjà revenu, alors nous disons simplement, quand lui il reviendra, nous allons dans l'enlèvement. Et s'il n'est pas encore revenu, c'est parce que nous sommes encore là. De ne plus rien croire, aucune interprétation, rien du tout, que seulement ce qui est écrit ici dans la Bible, et c'est seulement l'esprit de la vérité qui alors pourra nous conduire dans toute la vérité. À lui, le Seigneur fidèle, qui, dans ce temps, dans sa grâce, a visité son peuple et nous a ramenés au commencement, à l'original. À lui, soit l'honneur. Nous pouvons par conviction des expériences dire, tu t'es révélé à moi, ô Dieu, dans ta miséricorde. Et nous pourrions dire, tu as parlé avec moi. Et nous pourrions dire, tu m'as parlé. Et nous pourrions dire, tu m'as ouvert l'intelligence pour les Écritures. Nous pouvons dire, tu as oué mes yeux. J'ai la grâce de voir. Je peux entendre et voir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a totalement fait grâce, entièrement, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Et à lui, soit la louange maintenant et dans toute éternité. Amen. Levons-nous et chantons comme si souvent. Tel que je suis, sans rien de moi. Nous allons tout de suite ensemble remercier le Seigneur et élever nos voix et lui, le seul vrai Dieu unique, lui apporter l'honneur de tout notre cœur. Il a parlé avec nous. Il s'est révélé à nous. Nous avons compris de quoi il s'agit. Et notre Seigneur a autrefois posé la question à la fin du temps, à la fin des paraboles. Avez-vous bien compris tout cela? Et ils ont répondu, oui Seigneur. Cela est à lire dans Matthieu 13. Bien-aimés frères et sœurs, de loin et de près, ici et dans le monde entier. Et tous ceux qui maintenant écoutent, dans toute l'Afrique et dans le monde entier, comme nous disions tout à l'heure, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, s'il vous plaît, croyez ce que les Écritures disent. Croyez ce que Dieu a dit. Dès que cet homme de Dieu, trois fois, à la parole de l'Éternel, pouvait dire, c'est ainsi que nous aussi nous pouvons dire, en insistant à la parole de l'Éternel, nous portons le dernier message et faisons retentir le dernier appel, oui, l'appel à sortir de l'église épouse. Et seulement celui qui appartient à l'épouse, à l'église épouse, prêtera l'oreille à l'appel de l'époux. Et se délira de tous ces lieux de culte partout où ils existent. Si il n'est pas en accord, si ces lieux ne sont pas en accord avec le modèle qui a été établi à Jérusalem, alors Dieu lui prononcera le jugement. Et la question est la suivante. Comme le Seigneur disait dans l'Apocalypse, je n'effacerai pas son nom du livre. Donc, il s'agit ici de l'obéissance. Et dans l'obéissance, suivre le Seigneur sur tout le chemin. Faire ce qu'il a ordonné. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Et nous croyons que le sang de la Nouvelle Alliance a coulé. Et que notre Seigneur Rédempteur disait, ceci est le sang de la Nouvelle Alliance qui a coulé pour beaucoup. Nous sommes le troupeau racheté par le sang. qui maintenant est purifié dans la parole et par le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité et est sanctifié dans la vérité, séparé de tout ce qui a lieu dans les montagnes d'Éphraïm et dans les différentes tribus qui se sont détachées de Jérusalem. Et bien, mes frères et sœurs, recevez cela de tout votre cœur. Toutes ces dénominations se sont détachées de Jérusalem. Ont mis de côté l'enseignement des apôtres et méprisé l'enseignement des apôtres, ont leur propre confession de foi qu'ils ont établie, et le Seigneur appelle de tout à sortir, revenir au modèle original, à la prédication originale, revenir à Jérusalem, revenir au modèle original. Pensons encore à cela. Ce vieux prophète qui n'avait plus d'ordre du Seigneur, aucun n'avait plus de mandat du Seigneur, et habitait lui-même à Bethel où cet hôtel avait été édifié. C'était un homme de Dieu là, c'était ce prophète là qui a prononcer un mensonge à l'homme de Dieu et lui a dit, un ange m'a apparu et m'a dit que tu dois venir manger avec moi. Dieu est le Dieu de la vérité et Satan est le Dieu du mensonge. Ainsi, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce. Il nous a donné le discernement des esprits pour que nous puissions tous, en toutes choses, juger chaque chose spirituellement. Mais nous sommes jugés par personne, justement, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Je voudrais maintenant savoir, bien mes frères et sœurs, est-ce que notre décision est prise? Est-ce que dans l'obéissance de la foi, nous voulons suivre le Seigneur dans l'obéissance jusqu'à la fin? Ne plus seulement comme ça avoir eux. Et des gens qui sont eux, qui suivent cette idolâtrie et qui sont superstitieux et ne plus comme ça accepter des commandements d'hommes et des enseignements d'hommes. Accepter le propre du Christ, accepter le propre des apôtres, accepter le propre de la parole de Dieu, le propre de Dieu. Accepter notre propre, accepter tout. Marcher avec cela, ce qui est important, c'est que nous puissions atteindre le but. Avons-nous des frères et des sœurs ici qui ont une requête, qui veulent exprimer au Seigneur, apporter devant le trône de la grâce? Levez vos mains. Oh oui, beaucoup, beaucoup de mains se sont levées. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous avons dans les derniers jours entendu des témoignages de ce que Dieu a fait. Et nous croyons que en cela, le rétablissement de tout cela, de tout va suivre, va devoir suivre. C'est pas possible autrement. Cela, le rétablissement de toutes choses appartient à cela, appartient à cela. Croyons maintenant, et le Seigneur va confirmer sa parole par sa grâce. Prions. Bien-aimé Seigneur, tu es notre sauveur. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par nous. Tu as produit la foi. Tu as produit la décision. Bien-aimé Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole. Nous croyons que tu as confirmé ta parole. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. La guérison, le salut, la délivrance. Nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Bénis dans le monde entier. Bénis tous nos frères et toutes nos sœurs. Accorde une nouvelle un nouveau courage pour croire, pour te faire confiance. Encore une nouvelle consécration. Béni, ô Dieu, adoration, te soit apportée et honneur. Adoration et honneur. Alléluia. Alléluia. Pour la victoire de Golgotha, Jésus est vainqueur. Alléluia. 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 Honneur et gloire. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour la grande leçon de ce soir. Je te remercie de ce que dans tout le futur, tu garderas ta main sur moi et sur nous. Que 1979 ne se répète plus jamais. Et que nous puissions seulement prêter l'oreille à ta voix et exécuter ton ordre. Et cela dans le monde entier. Béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu. Aussi pour tous mes frères et toutes mes sœurs, ici et dans tous les pays de la terre, dans toutes les langues et dans toutes les nations et les tribus, louées et exaltées es-tu. Tu es Dieu seul dans toute éternité. Et à toi, c'est à toi que nous apportons la reconnaissance et l'adoration. Dans le nom saint de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le nom duquel tous les genoux fléchiront, tel que nous l'avons lu dans la parole d'introduction. Et qu'est-ce qu'ils vont confesser? Ils vont confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Car c'est à vous que le Seigneur, le Sauveur aujourd'hui est né. Christ, le Sauveur, le Seigneur, qui avait déjà parlé à Abraham et à tous les prophètes, il a dit ici, aujourd'hui vous est né le Seigneur. Lui qui pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Aujourd'hui vous est né le Seigneur. Dieu manifesté dans une forme visible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans un esprit, dans un corps spirituel, bien dans le Nouveau Testament, dans un corps de chair. Ô bien-aimé Seigneur, là-bas dans le corps spirituel et ici dans le corps de chair, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tout d'une manière ordonnée par toi. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que tu nous as conduits dans le lieu très saint et que le voile, donc l'alliance est ouverte, l'arche de l'alliance est ouverte, le voile est ouvert et cela a servi à quelque chose, car l'appel à sortie de l'épouse a lieu dans le monde entier maintenant. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Et nous te donnons à toi seul l'honneur, aussi pour la grande leçon que j'avais à apprendre de manière nouvelle et que nous avons tous compris. Sois avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Et confirme-toi-même, achève-toi-même ton œuvre. Bien-aimé Seigneur, tu as vu toutes les mains et aussi toutes les prières qui ont été placées devant ici. Ô grand Dieu, réponds-toi-même, guéris, délivre, bénis et bénis. Nous te remercions de ce que sur la croix à Golgotha tu as dit. C'est accompli. Loué et exalté sois-tu. Merci sois-tu pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Tu as béni ton peuple. Je te remercie pour cela. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir.
Wir verabschieden uns von allen.
Donc nous disons au revoir à tous ceux qui nous ont entendus en ligne directe. Et nous vous invitons encore à tous demain, pour demain matin. Vous savez, les différents sœurs et tous ceux qui peuvent suivre les réunions en direct, malgré les changements de temps, les différences d'heures. Nous espérons que tous vous pourriez être au rendez-vous demain matin avec nous. Bien-aimés frères qui prêchent la parole, que le Seigneur soit avec vous. La décision est prise. Nous croyons que Dieu le Seigneur, nous croyons ce que Dieu le Seigneur a dit et nous exécutons son ordre et nous revenons avec personne. Nous faisons que nous repartons en arrière avec personne. Nous ne repartons pas à Bethel où un hôtel particulier a été édifié. Nous repartons à Jérusalem, Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Qui propose encore un chœur que nous pourrions chanter? Tous les enfants, tous les parents avec les enfants, je vous remercie beaucoup de ce que vous exécutez votre devoir de surveiller vos enfants. Nous ne sommes pas faits pour recevoir des enfants malgré tout, mais s'il y a des familles parfois qui viennent avec des enfants, nous ferons tout ce que nous pouvons. Et nos sœurs font tout ce qu'elles peuvent pour ça. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Oui. Aussi, tout ce que vous avez pris pour vous, tous les efforts pour être ici, de la Suède, de la Finlande, de partout, nous avons ici des frères et des sœurs, ici, de la Roumanie, oui, de Ouzbékistan, oui, même de Ouzbékistan, de la Tchèque, de la Pologne, oui, de la Belgique, de la France, de l'Hollande, de partout. D'au-delà des mers, que Dieu soit avec vous. Qui propose un cœur? Levons-nous.
Singen wir noch, ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Encore, je l'aime, je l'aime.
Und in Englisch.
Et que tout le peuple dise Amen. J'ai encore une demande. Asseyez-vous. Mercredi, nous avons le nouveau couple. Nous avons eu dans leur demandé de chanter un cantique. J'ai une question. Est-ce que ce couple est ici? Que le couple est ici? Sont-ils ici? Frère Schmidt dit qu'ils sont ici. Nous leur avons demandé de nous chanter un cantique. Oui, venez s'il vous plaît. Venez devant. Nous leur avons demandé de nous chanter un cantique. Mercredi, venez devant simplement, oui. Tout à l'heure, j'ai pensé, alors que les deux sœurs avaient chanté, je me suis dit, mais c'est dommage que nous n'avons pas toutes les langues. Ils ont chanté en français. Je me suis dit, c'est dommage que toutes les langues, toutes les autres langues ne peuvent pas comprendre. Et si on pouvait chanter ici en français, encore c'est très bien. Mais les traducteurs, eux peuvent, n'est-ce pas? Écoutez, on a besoin d'un, d'un casque pour écouter. Avez-vous un microphone qui vient? Venez devant alors. Si le frère Schmitt dit de, si frère Schmitt dit que vous devez venir devant, venez devant. Changez la
venue. Echt? Benvenuto a chi è mano mio. Amen. Ja.
Lléname, Señor, es mi oración. Hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí. Y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón,
llena hoy mi corazón
con tu Espíritu, Señor,
con tu Espíritu, Señor.
Déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor.
Señor, mi necesidad, eres mi mayor anhelo. Hoy mi corazón pide más de ti.
Llena hoy mi corazón,
llena hoy mi corazón
con tu Espíritu, Señor,
con tu Espíritu, Señor,
y déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Déjame sentir presencia en mí, lléname de ti, Señor, lléname de ti, Señor.
Muchas gracias. Danke schön.
Merci, merci. Oui, un texte merveilleux, un texte merveilleux. Remplis-moi, Seigneur, c'est ma prière, que je puisse naître de nouveau, que, je sois, que ta sagesse se reflète en moi, par moi, et que je ne puisse plus vivre moi-même, et ensuite le cœur. Remplis aujourd'hui mon cœur de ton esprit, Seigneur, et que je puisse toujours en moi ressentir ta présence. Remplis-moi de toi, avec toi, de toi, de toi. Tu es, Seigneur, celui dont j'ai besoin. Tu es mon plus grand désir aujourd'hui, mon cœur a soif de plus de toi. Je veux entièrement être rempli de toi. C'est merveilleux quand il est exprimé cela. Avez-vous tous la reconnaissance, vous tous qui parlez d'autres langues, et qui ne pouvait pas toujours comprendre tout comme ça, ici, de devant, dans votre langue. Mais nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Que le Seigneur bénisse tous et soit avec tous. Nous nous levons et le frère Schmitt va encore prier. Remercie le Seigneur. Grand Dieu, nous te louons, nous exaltons ton saint nom, ton haut nom, en Christ Jésus, notre Seigneur, dans lequel nous avons reçu le salut. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie pour nous, pour que nous puissions vivre, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions t'apporter l'honneur, la gloire et l'adoration, et que nous ne soyons pas rebelles et désobéissants à toi et à ta parole, ou bien à la conduite de ton esprit. Ô Seigneur, bénis-nous. Bénis aussi, Seigneur, cette nuit qui est devant nous, sois avec tous, Seigneur. Donne-nous de ne pas comme ça trop parler comme ça des entretiens inutiles, mais restons calmes et méditons la parole que nous avons reçue et allons nous coucher. Amen. Au nom de Saint-Jésus-Christ. Et que tous disent Amen, 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 Amen. Soyez remis à la grâce du Seigneur jusqu'à demain. Faites en sorte qu'il y ait du calme dans les chambres et dans les dortoirs. Faites en sorte qu'il y ait de la paix, alors il y a de la paix. Faites en sorte qu'il y ait du calme et il y aura du calme. Que Dieu vous bénisse jusqu'à demain, Dieu voulant. Amen.